Ce qui est sympa en France, c'est qu'au fil de l'année, quelle que soit la saison, on enchaîne les occasions de faire des bons repas, des spécialités culinaires. À Noël, par exemple, on mange bien à Noël, il y a tous les repas de Noël. Mais après, c'est le mois des galettes, et ça, c'est sympa aussi. Et puis, une fois qu'on en a un peu marre des galettes, on passe au février des crêpes. Et donc ça c'est sympa. Et quand il n'y a plus de Nutella, on passe aux raclettes de l'hiver. C'est bien. Et puis maintenant, je crois qu'on se calme un peu avec les raclettes, mais c'est Pâques avec les chocolats, le gigot, ça c'est sympa. Et puis dans quelques jours, ce sera les beaux jours avec les grillades. Et ici, nous étudions l'évangile selon Matthieu, qui lui aussi enchaîne les repas, en quelque sorte, depuis quelques chapitres, chapitres 14 et 15, que nous étudions. La semaine dernière, nous avons vu avec Julien que Jésus a fait un repas, a multiplié les pains pour cette foule. C'était juste après que le méchant roi Hérode avait mis. On essaie de régler le micro quelques instants. Voilà, juste après que le roi Hérode a mis la tête de Jean-Baptiste sur une assiette, lors de ce banquet macabre, Jésus, le bon roi, a multiplié le pain pour une foule, les a nourris. Et il va le refaire, donc Matthieu rapporte deux fois que Jésus a multiplié les pains. Et entre les deux fois, nous allons regarder ce matin un petit épisode où Jésus a invité un individu, à accueillir un individu à sa table, et elle va goûter à sa grâce. Donc, je vous invite à lire avec moi Matthieu 15, versets 21 à 28. Et le texte s'affiche sur l'écran, où vous pouvez suivre dans votre Bible Matthieu 15, versets 21 à 28. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant « Seigneur, secours-moi. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. »« Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. C'est un des passages les plus choquants, en quelque sorte, des évangiles. Imaginez si un journaliste, un politicien, disait cette phrase de nos jours à une femme. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le donner aux petits chiens. Immédiatement, il y aura sanction pour racisme, sexisme, intolérance. Mais il faut apprendre à lire l'histoire. Matthieu fait exprès d'inclure cette femme dans son récit pour la féliciter, pour l'honorer. Alors qu'il écrit à un public surtout juif, elle, cette femme cananéenne, reçoit parmi les plus grandes éloges de Jésus « Ô femme, ta foi est grande !» Dans un évangile où Jésus reproche souvent la petite foi de ses disciples, de ses hommes disciples, cette femme se démarque. Aujourd'hui, en ce moment à Toulouse, il y a le mois de mars, il y a des expositions sur les femmes inspirantes et remarquables. Eh bien, cette femme en fait partie, des femmes remarquables et inspirantes. La beauté, la force de ce récit, c'est que Jésus dresse suffisamment d'obstacles à la fois pour l'éprouver, pour la faire ressortir, et en même temps, il donne suffisamment d'encouragement à la femme pour qu'elle puisse avancer. Et j'aimerais célébrer ce matin la foi de cette femme, la qualité de la foi de cette femme. Elle a quelque chose de très rare que nous voyons dans ce texte. Sa foi est un mélange d'humilité, mais aussi d'audace et d'insistance. Chez elle, on ne trouve ni la revendication, ni la victimisation.
que souvent ce monde met en avant pour avancer dans la vie, mais ni non plus la résignation fatale, l'abattement. Elle est humble et insistante. Et c'est ça un aspect de la foi que nous allons voir ce matin. Et nous allons voir cela à travers l'image qui domine notre texte et qui nous aide à comprendre même le plan de Dieu et notre place dans ce plan. C'est celle d'une table à manger, un cadre domestique. La foi de cette femme n'était pas de contester l'image, mais avec une répartie délicieuse, elle trouve sa place à la table du roi. Et donc nous allons explorer l'image que donne Jésus dans ces trois parties. Le pain des enfants, les chiens sous la table et les miettes qui tombent. Et si nous acceptons un peu cette image pour notre propre foi, nous allons recevoir des grandes bénédictions et nous aussi trouver une place à la table du roi pour bénéficier de tout ce qu'il est, tout ce qu'il veut être pour nous. Donc parlons tout d'abord du pain des enfants. Si vous comprenez l'image de Jésus, le pain des enfants représente, les enfants représentent le peuple juif et le pain représente les bénédictions de Dieu pour le peuple juif et notamment la venue de Jésus comme juif en Israël. Et la foi de cette femme est de reconnaître cet aspect du plan de Dieu. Alors nous apprenons en verset 21 que Jésus, étant parti après avoir parlé des pharisiens, après avoir multiplié les pains, Jésus était parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Tyr et Sidon se trouvent donc en dehors d'Israël. Aujourd'hui, ils se trouvent au Liban. Sidon est à peu près 40 minutes de route au sud de Beyrouth. Et Matthieu précise que cette femme, elle est cananéenne, qui venait de ces contrées. Donc une non-juive, et Jésus est en dehors d'Israël. Mais c'est déjà étonnant la façon qu'elle aborde Jésus, elle dit « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David !» Fils de David. C'est étonnant qu'elle aborde Jésus avec ce titre, « Fils de David », pour une cananéenne. C'est beau, on voit déjà une foi qui s'exprime, une foi qui reconnaît en quelque sorte le rôle de Jésus, un descendant de David, Et toute l'histoire du peuple juif. Mais ici, Jésus ne dit rien. Verset 23, il ne lui répondit pas un mot. Étonnant de la part de celui qui prononce tant de discours, de grands discours dans cet évangile. Lui qui est la parole de Dieu, qui avait souvent une parole de grâce, de compassion pour les gens. Il ne dit pas un mot. Mais cette femme, qui on commence à apprécier de plus en plus, elle persévère. Elle doit se dire, d'accord, il n'a pas dit oui, mais il n'a pas dit non. Mes enfants ont compris parfois l'avantage de demander permission pour quelque chose lorsque l'attention des parents est retenue ailleurs, car ils peuvent interpréter notre silence comme un accord, alors que... Donc elle insiste, elle suit, et les disciples, c'est là où les disciples se mettent, ses disciples s'approchèrent, verset 23, et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Donc elle crie, Jésus n'a rien dit, mais elle ne prend pas ça pour une revue, elle continue à crier, et ses disciples commencent à s'en fatiguer, et donc ils demandent à Jésus, « Renvoie-la. » Et beaucoup pensent que les disciples sous-entendent, « Renvoie-la. » Fais ce qu'elle demande et renvoie-la, parce que à cause de sa réponse, renvoie-la car elle crie derrière nous. Et verset 24, il répondit, je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc renvoie-la, c'est-à-dire fais ce qu'elle lui demande et puis renvoie-la. Et lui dit, je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. Alors comment comprendre cette phrase? Je n'étais envoyé qu'aux brebis, donc je peux pas l'aider. Est-ce que Jésus est chauvin là? Est-ce qu'il est raciste? La femme aurait pu dire, bah, ça c'est injuste, quelle injustice, égalité. Mais cette femme accepte la providence de Dieu, et elle accepte sa gestion sage et souveraine des temps et des lieux. Et elle reconnaît en quelque sorte cette, cette vérité que Jésus n'est envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. En tout cas, pour le moment, sa venue, l'évangile de Matthieu va le montrer, que Jésus est venu en tant que juif et il a passé son temps plus ou moins tout le temps en territoire d'Israël. Et puis, c'est ça aussi, quand on lit la Bible et on comprend le plan de Dieu, oui, Dieu a d'abord focalisé sa révélation, ses bénédictions, son alliance sur le peuple juif. Il y avait cette mur de séparation dont Paul parle dans les Éphésiens pour garder les Juifs séparés des Cananéens. Donc le culte, les lois de Moïse, les lois de pureté et d'impureté, tout ça c'était pour garder Israël séparé des nations autour. Et puis Jésus lui-même est venu d'abord envers les siens. Et c'est vrai, pendant son ministère terrestre, il a œuvré presque exclusivement parmi les Juifs, pour ensuite élargir le salut à tous les peuples. Mais pour l'instant, il se voit envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël, notamment pour aller marcher vers Jérusalem, vers la croix. Et ça, elle reconnaît en quelque sorte, elle ne conteste pas l'image. D'ailleurs, par cette histoire, Matthieu veut interpeller ses premiers lecteurs juifs. Ne soyez pas de ceux qui rejettent le plan de Dieu. C'est-à-dire vous avez des privilèges. Jésus est venu vers vous, le Messie est venu vers vous pour accomplir les promesses, pour hériter le trône de David, pour montrer que Dieu est fidèle tout au long de l'Ancien Testament. Et juste avant la rencontre avec cette femme, il y a les pharisiens qui encore, pour une énième fois, veulent contester l'autorité de Jésus de sa venue. Jésus les appelle des aveugles qui conduisent des aveugles. Et juste après ça, une cananéenne est prête à reconnaître que Jésus est le fils de David. Donc Matthieu utilise ce genre d'histoire aussi pour faire réfléchir son peuple. Vous avez droit, vous, le pain des enfants, vous êtes des enfants et vous avez du bon pain sur la table. Et si vous ne le voulez pas et que les païennes le veulent, c'est le comble. Donc déjà Matthieu, par cette histoire, rappelait que oui, appréciez le pain qui vous est donné, reconnaissez la venue de votre Messie. Mais cette femme, elle reconnaît qu'elle est étrangère aux promesses de Dieu, mais elle refuse de repartir bredouille. Et donc elle dit, secours-moi. Verset 24, Jésus dit, je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. C'est peut-être une des plus belles prières de la Bible. Et c'est juste secours-moi. C'est pas secours-moi parce que moi aussi j'ai droit au pain. C'est secours-moi, sinon je vais te faire un procès. C'est juste, oui, d'accord, mais secours-moi quand même. Donc, la foi reconnaît les origines juives du salut, du Messie, et tout le plan de l'Ancien Testament, le rôle de chacun. L'apôtre Paul va beaucoup expliquer ces choses dans les épîtres de Romains et d'Éphésiens. Mais voilà, nous pouvons déjà reconnaître que Dieu a fait un plan sage en passant par des siècles d'histoire, le peuple juif, pour faire venir son Messie et ensuite offrir le salut à tous. Mais le pain des enfants commence avec cette histoire de Jésus, fils de David, Jésus qui est envoyé vers les brebis perdues d'Israël. Mais ensuite, il y a les chiens sous la table. Et la réponse à Jésus à la demande du secours est encore plus choquante. Verset 26, « Secours-moi », elle demande. Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Alors, il faut savoir qu'à l'époque, les chiens, ce n'était pas Belle et Sébastien, ce n'était pas les 101 Dalmatiens. Les chiens, souvent, c'était associé à un animal impur. Les juifs traitaient de manière... les non-juifs de chiens, de manière dénigrante, mais à cause de ce mur de séparation entre la notion de pureté juive, les lois de pureté, voilà, tout le temple était rappelé que Dieu était saint et pour s'approcher, il fallait être pur. Et plus on s'éloignait du temple de Jérusalem, plus on pouvait rencontrer de l'impureté. Donc les chiens étaient comme des animaux impurs et c'est ainsi qu'ils voyaient les non-juifs. Alors c'est vrai que Jésus utilise un mot ici, traduit « petit chien » dans notre texte. Tous les versions de la Bible certaines mettent tout simplement chien, mais c'est vrai. Le mot se trouve uniquement dans cette histoire. Ce n'est pas le même mot grec qu'on trouve dans les textes comme, je crois que je peux les afficher, éventuellement, si j'ai la main, non. En Matthieu 7, verset 6, Jésus avait dit « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens ». Ce n'est pas le même mot « chien ». Philippiens 3, « Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis ». Paul dit ça de manière presque satirique, ironique. Il parle des gens qui sont judaïsants et donc qui rejettent l'évangile. Et il dit « Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers ». Et puis en Apocalypse, on termine avec cet appel « Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge ». Pour ceux qui veulent entrer dans la ville sainte, entrer dans le paradis, voilà, c'est ce qui vient à Jésus-Christ. Et puis dehors les chiens, les magiciens. Donc on utilise l'image du chien impur, l'animal impur dans plusieurs contextes de la Bible. Ce n'est pas ce mot-là que Jésus va utiliser. Mais même en disant « petit chien », ce n'est guère un compliment dans la culture de l'époque. Mais cette femme ne se laisse pas décourager, ne se laisse pas offenser. D'ailleurs, est-ce mieux d'être traité de petit chien ou de brebis perdues? Jésus appelle toute la maison d'Israël des brebis perdues. Ni l'une ni l'autre ne sont des images très glorieuses pour l'humanité. Mais cette femme, sa grande foi, c'est d'accepter cette manière de parler de la part de Jésus. Sa foi est remplie d'humilité. Elle ne s'offusque pas, elle ne fait pas un procès à Jésus, elle ne court pas à la victimisation, elle ne crie pas au scandale. Elle accepte de se retrouver dans cette image qui évoque la dépendance, la faiblesse, l'absence de mérite. Peut-être vous aussi, lors d'une première lecture de la Bible, certains aspects de la Bible vous dérangent. La façon qu'elle nous appelle tous des pécheurs, que ce soit des brebis perdues ou des petits chiens. La façon que la Bible parle de la sexualité, les différences complémentaires entre l'homme et la femme, la masculinité et la féminité. Mais cette femme, je trouve, peut devenir un modèle pour nous. Elle avance humblement. Elle ne cherche pas à corriger Jésus. Elle interprète chaque parole de Jésus plutôt comme une invitation à aller plus loin dans sa vérité, vers lui, vers son secours. Et donc, que ce soit le silence de Jésus, que ce soit son image des brebis perdues, que ce soit l'image du petit chien, elle a cette humilité de continuer à chercher un secours et un salut, une grâce de sa part. Et c'est ce qu'elle fait. Donc oui, l'image du petit chien rappelle aussi. On peut imaginer ce petit chien qui attend, qui guette la main des enfants à la table et qui est quelque part presque mignon. Le chien qui suit le pain avec ses yeux pour recevoir quelque chose, elle se retrouve dans cette image et dit « voilà, c'est ça qu'il me faut ». Et enfin, on peut parler donc des miettes qui tombent. Puisque la réponse de cette femme, c'est un masterclass de la foi. Verset 27, Jésus donne cette image qui peut paraître dérangeante. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Mais verset 27, elle dit oui, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Dans le grec, Jésus dit... Oh, il y a dans le grec un petit mot et une petite injonction. Oh, femme, ta foi est grande. Dis donc, quelle foi? Dis donc, quelle réponse? Femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. En fait, en parlant ainsi, elle reconnaît, oui, je ne mérite pas d'être accueillie à la table du roi, mais une miette de sa table suffit pour me sauver. Et elle glorifie Jésus ainsi, en disant, voilà, le roi, le fils de David, peut-être Je ne suis pas une brebis d'Israël. Je ne suis pas un membre du peuple de l'Alliance de l'Ancien Testament. Je n'ai pas reçu tout cet héritage, mais sa grâce et sa grandeur et Jésus le roi est suffisamment grand qu'une seule miette me suffit. C'est vraiment une belle foi. J'aime bien la façon, c'est dans un commentaire de Marx, de Tim Keller, qui célèbre cette foi. Dans nos cultures occidentales, nous n'avons rien qui ressemble à ce genre de revendication, la démarche de cette femme. Nous avons des exigences concernant nos droits, notre dignité, notre bien-être, et nous disons c'est mon dû. Mais ce n'est pas du tout ce qu'a fait cette femme. Elle s'affirme, sans en avoir le droit, ce que nous ne savons pas faire. Elle dit, Seigneur, je ne te demande pas quelque chose que je mérite à cause de ma bonté, je te demande quelque chose que je ne mérite pas à cause de ta bonté. C'est ce qui ressort dans sa façon de répondre à chacune des paroles de Jésus. Seigneur, oui, mais les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table. Donc vous voyez, c'est ni la revendication des droits, mais ni l'abandon. Il y a une audace, il y a un courage, il y a une foi que Jésus va célébrer. Et c'est ça, la grande foi. La grande foi reconnaît la grande grâce de Jésus, la grande bonté, le grand secours qui est suffisant pour tous. Vous savez, dans les films comme « Chérie, j'ai rétréci les enfants » ou les films qui parlent des insectes, « Mille et une pattes, fourmis », quand on est du point de vue du tout-petit, une miette de la table des êtres humains, c'est l'aubaine d'une vie. Quand on est la taille d'une fourmi, c'est ce qu'elle reconnaît. Elle reconnaît cela. Les miettes de la table de ce roi, Jésus, représentent une grâce plus que suffisante, tous les secours. Et quand on... C'est vrai que, et quelque part, c'est vrai tout au long de la Bible, même dans l'Ancien Testament, la grâce de Dieu a débordé les frontières d'Israël. D'ailleurs, c'est Élie qui partit, Élisée qui partit en territoire de Tyr et Sidon, parce que le peuple aussi voulait rejeter Dieu, mais il a fait un miracle pour une veuve. Et si vous relisez l'Ancien Testament, oui, même la grâce, même ce Dieu d'Israël a souvent apporté la grâce et le salut aux autres. Et ce que Matthieu veut montrer tout au long de son évangile aussi, les premiers qui ont reconnu, qui ont fléchi les genoux devant le roi, ce n'étaient pas des Juifs, c'était des mages venant d'Orient. L'autre personne à qui Jésus dit « À ta foi grande », c'est un centenier. Donc oui, par sa mort à la croix, Jésus va donner sa vie, non seulement pour les Juifs, mais pour le monde entier. Et une miette de grâce, grâce à cette croix qui montre le grand secours, la grande bonté de Dieu, une miette nous suffit pour nous combler. Alors ce matin, où en êtes-vous dans votre approche à Dieu ? Peut-être vous êtes toujours dans la revendication des droits, des mérites, et il vous manque l'humilité, il vous manque la dépendance, il vous manque la reconnaissance que, oui, je ne suis qu'un petit chien. Ou peut-être vous êtes dans le découragement, et il vous manque l'audace de la foi qui mesure la grâce incomparable, inépuisable de Jésus. Et vous devez poursuivre avec insistance, Seigneur, secours-moi. Je sais que je ne mérite pas, mais secours-moi. Je sais que je n'apporte rien, mais secours-moi. Je sais que mes problèmes me dépassent, mais secours-moi. Dans l'Ancien Testament, il y a une histoire, cela, c'est que dans le cadre juif, mais il y a le roi David, puisque Jésus est le fils de David, et le roi David qui a remporté le trône face à son adversaire, Saül. Puis Saül avait un petit-fils, Mephibosheth, qui était handicapé. Et David veut l'accueillir à sa table. C'est-à-dire, même si c'était le petit-fils de son rival, quelqu'un qui pourrait contester son autorité, son trône, vouloir renverser sa dynastie, David veut montrer sa bonté, sa grâce. Et donc il veut accueillir Mephibosheth à sa table. Je t'offre une place à ma table. Et Mephibosheth dit, « Qui suis-je, moi, un chien mort, que tu m'accordes une telle bonté ?» Donc, Mephibosheth reconnaît aussi. Ça, c'est encore pire qu'un petit chien, un chien mort, c'est encore plus indigne. Mais Mephibosheth reconnaît sa place. Mais il accepte cette place à la table du roi, et tous les jours il mange à la table du roi. Est-ce que vous aussi ce matin, vous pouvez dire oui, je ne le mérite pas, mais je veux cette place à la table du roi. Je veux le banquet que lui me prépare, même des miettes de ce repas, plus délicieuses que tous les repas qu'on trouve même en France. Je veux des miettes de cette table-là pour vivre et pour avoir le secours éternel, la solution de mes problèmes, le salut éternel. Voilà ce que Jésus vous offre ce matin. Je vous invite à vous incliner dans la prière. Seigneur, merci pour cette femme, merci pour sa grande foi, merci pour ces obstacles même que tu as mis sur sa route pour faire ressortir la grandeur de sa foi. Et si ce matin il y en a ici qui sentent qu'il y a des obstacles, des défis pour s'approcher davantage de toi, je te prie de leur donner cette persévérance, cette insistance, ce courage d'aller jusqu'au bout dans une recherche, dans une découverte de la personne de Jésus-Christ, qui soit pas refoulé, rebuté par ce qu'ils peuvent voir dans ta parole ou dans les églises, mais vraiment qu'ils se concentrent à chercher Jésus à son secours. Nous te prions de nous accorder tous cette humilité. Nous aussi, nous étions éloignés de toi. Nous n'avions pas droit de citer, nous n'avions pas accès à ces alliances, mais tu nous es venu en Jésus-Christ. Tu nous as offert ton salut, tu nous as accueillis dans ta famille, à ta table, et encore ce matin, nous voulons voilà, par la foi, déguster des richesses de Jésus-Christ, profiter même de la plus petite miette est suffisant pour combler chaque cœur ici. Et je te prie que tu nous bénisses, que tu nous aides à être dans la joie. Oui, nous disons ensemble Hosanna, que Jésus nous secourt, nous sauve. C'est notre prière encore ce matin. Et nous le prions en son nom. Amen.